Le 15 minutes, une émission présentée par Anna Godiche. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Alain Dorisundiram, astrophysicien à l'Observatoire de Paris, enseignant-chercheur, spécialiste du système solaire et auteur. Vous avez été scolarisé une partie de votre enfance à Kourou, en Guyane, au pied du Centre spatial guyanais. À partir de là, vous commencez votre carrière en France avec une licence en physique, un master en astronomie et un doctorat en astrophysique sur le thème des astéroïdes. Vous avez, au cours de votre carrière, acquis de l'expérience à l'étranger, notamment à l'Observatoire de Turin et dans un laboratoire de la NASA en Californie. Aujourd'hui, vous êtes astronome, vous menez des recherches sur les surfaces planétaires et les petits corps du système solaire. Vous êtes co-responsable de plusieurs instruments de mesure pour des missions d'exploration telles que la mission BepI Colombo vers Mercure qui a eu lieu en 2018 et la future mission MMX vers Mars qui partira en mars 2024 par exemple. En parallèle, vous êtes investi auprès du jeune public dans la diffusion de la culture scientifique. Alain Dorisundiram, bonjour.
Bonjour Anna.
Vous avez été au Vietnam dans le cadre d'une mission à l'université d'Hanoï et vous avez profité pour venir au Cambodge et réaliser des ateliers au sein du lycée français René Descartes avec les élèves. Nous avons eu la chance de vous recevoir pour une conférence au sein de l'Institut français du Cambodge dans le cadre de notre saison culturelle « Vie d'ailleurs » sur les thèmes de l'archéologie, l'art et les sciences. Aujourd'hui, nous vous recevons pour discuter de votre parcours et de vos actions auprès du public au Cambodge. Pouvez-vous nous expliquer d'où vient cette passion pour l'espace ? Petit, vous étiez quel type d'enfant ? Rêveur, ambitieux ?
Alors écoutez, on pose souvent la question et effectivement ce que je réponds c'est que ma vocation, mon intérêt pour l'espace et l'astronomie m'est venu à Kourou quand j'étais à l'école primaire. J'ai eu des enseignants qui m'en ont parlé et tout de suite m'est venu cet intérêt, cette fascination pour l'espace. Et ce qui m'a tout de suite attiré, ce n'est pas la physique, ce n'est pas les maths, c'est plutôt le rêve, la part de rêve. Imaginez ces mondes distants, à des milliards de kilomètres, imaginez comment ils sont, de quoi ils sont faits, ça me faisait rêver. Et c'est que plus tard que m'est venu l'intérêt pour la physique et les maths.
Ok, très intéressant. Parce que c'est vrai que les métiers de l'espace et de l'observation spatiale ne sont pas très communs et paraissent assez difficiles à atteindre. Quel a été votre parcours ?
Alors moi j'ai fait donc un parcours universitaire. Après on peut faire aussi un parcours via les écoles d'ingénieurs, mais les deux sont bons. À l'issue de ces premières études scientifiques, il faut faire un master en astrophysique, c'est ce que j'ai fait, et puis terminer par un doctorat. Le doctorat est la porte d'entrée pour faire de la recherche, dans toute discipline d'ailleurs. Et donc, j'ai obtenu mon doctorat. Cela m'a permis donc d'embrasser la carrière de chercheur.
Avez-vous peut-être des conseils pour les étudiants qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être travailler dans ce domaine ?
Il faut être travailleur, il faut être rigoureux dans ses études. Et puis, je dirais, il faut surtout être passionné, aimer ce qu'on aime. Parce qu'on est toujours bon dans ce qu'on aime et c'est le plus important. Après, effectivement, comme vous le disiez, c'est un métier de niche. Hein, il n'y a pas beaucoup de postes. Mais en même temps, ce que je dis souvent, c'est ce que j'ai dit cet après-midi au lycée français, aux élèves qui m'écoutaient. Dans un projet spatial, il y a plein de compétences qui sont requises. C'est vrai qu'on pense souvent à l'astronome, l'astrophysicien, l'astrophysicienne, il faut le dire aussi au féminin. Eh bien, il y a aussi des carrières d'ingénieurs, de techniciens. Car dans un projet spatial, on construit des instruments, on envoie des sondes. Et dans le projet qui m'a occupé pendant de nombreuses années, hein, celui d'aller vers Mercure et puis maintenant d'aller vers la Lune de Mars Phobos, eh bien, je suis entouré d'une équipe d'ingénieurs, de techniciens, sur les compétences aussi diverses que variées que l'électronique, l'informatique, la documentation, l'assurance qualité produit. Et donc, tous ces métiers sont finalement aussi importants que le métier de chercheur pour finalement contribuer à la réussite d'un projet. Et dans mon équipe, tout le monde a apporté sa petite pierre et tout le monde peut être fier d'avoir, par exemple, envoyé un instrument pour explorer la petite planète Mercure.
Très bien, très intéressant. Alors, vous faites partie d'une association qui met en relation les chercheurs des observatoires et les classes francophones. Pourquoi cette envie de transmettre au grand public et surtout aux enfants ?
Alors, ce n'est pas une association. En fait, c'est un dispositif que j'ai moi-même créé il y a une vingtaine d'années qui s'appelle les parrainages de classe. Alors, je suis enseignant-chercheur. En fait, je le fais dans le cadre de ma mission, de formation des professeurs. Et dans ce cadre-là, j'ai voulu proposer à ces enseignants de pouvoir les accompagner dans leur classe autour d'un projet centré sur l'astronomie. Donc c'est un dispositif gracieux, gratuit, qui permet en fait d'introduire de l'astronomie dans la classe et puis de faire venir éventuellement, on ne peut pas aller partout, hein, et c'est une occasion unique aussi pour moi de venir au Cambodge, de le faire par exemple en visio. Hein. Donc l'intérêt de ce dispositif, c'est de permettre aux élèves de rencontrer un chercheur, une chercheuse, en l'occurrence sur l'astrophysique, et de discuter sur les sujets qui peuvent les fasciner. D'ailleurs, l'astronomie fascine tout le temps. Et moi, ce que je dis aussi souvent, c'est que je prends le prétexte de l'astrophysique pour réenchanter la physique, les sciences. Car effectivement, les sciences sont un petit peu délaissées, je dirais. Les élèves, des fois, peut-être ont une certaine appréhension. C'est un peu abscon. Par contre, l'astrophysique, ça les fait rêver. Là, tout de suite, dès qu'on leur parle d'étoiles, de planètes, tout de suite, vous attirez leur regard, vous captez leur écoute. Et donc, moi, je prends le prétexte de cette écoute pour introduire des notions de physique, de chimie, ancrées sur les programmes. En plus, je prêche pour la chapelle, hein, l'astrophysique, c'est la mère des sciences, c'est aussi pluridisciplinaire. Donc, en même temps, je parle de l'histoire, je parle de Louis XIV qui a créé l'Observatoire de Paris, je parle de philosophie, sommes-nous seuls dans l'univers. Donc, finalement, ça permet de toucher à toutes les disciplines, à toutes les cultures. Et c'est ça qui est bien en astronomie.
C'est une belle approche auprès des enfants. Du coup, vous avez travaillé avec des classes francophones cambodgiennes.
Alors, le dispositif des parrainages des classes s'adresse principalement, essentiellement, en fait, au système français, hein, puisque justement, je colle au programme. Et donc, on intervient dans toutes les classes de France et aussi les lycées français à l'étranger, puisqu'on le fait dans le cadre de nos missions. Et donc, c'est une action de formation des professeurs. Après, bien sûr, je ne suis pas réfractaire, je ne suis pas contre rencontrer d'autres élèves, d'autres cultures, d'autres populations, mais mon public cible, ce sont les établissements français. Après, j'ai posé la question, hein, donc c'est une première expérience, peut-être que je serai amené à revenir au Cambodge. Et bien, si le lycée travaille avec des écoles cambodgiennes, francophones, moi, je serais ravi aussi d'aller les visiter. Je l'ai fait plein de fois lors de mes missions, mes déplacements, pour rencontrer ces personnes-là. Alors souvent il faut un interprète, mais c'est pas la barrière de la langue n'est pas forcément insurmontable. J'aime d'autant promouvoir aussi la langue française, donc parler d'astronomie, de science, et en même temps promouvoir la langue française, mais je peux aussi être traduit, comme je crois ce soir à la conférence, pour parler d'astronomie, car la culture doit être universelle.
Cela pourrait être un beau projet pour le futur au Cambodge. Vous avez effectué des ateliers avec des étudiants francophones, notamment au lycée français René Descartes. Mmh. Que pensez-vous du public cambodgien ? A-t-il été réceptif ? Alors, je sais que vous n'avez pas eu l'occasion pour le moment de réaliser beaucoup d'ateliers, mais vos premières impressions ?
Alors, moi, je dirais que les enfants, quelle que soit leur culture, leur pays, ils sont tout autant curieux, fascinés. C'est les mêmes questions, c'est les mêmes interrogations. Je dirais, l'humanité est universelle. Et moi, j'ai toujours rencontré le même engouement, la même curiosité chez tous les enfants que j'ai vus, que ce soit au Pérou, en Asie, au Cambodge, j'étais au Vietnam, en Inde, aussi en Europe, aux États-Unis. Donc partout, ce sont les mêmes enfants. Après, effectivement, selon la culture locale, vous pouvez avoir moins d'échanges, par exemple, mais c'est culturel. Par exemple, je dirais que au Vietnam aussi et au Cambodge, eh bien les élèves sont plus dans l'écoute. Ils ne vont pas essayer de poser trop de questions. Tandis que quand je suis en métropole, ben les enfants ont des questions, mais ça fuse de partout. Hein. Je suis, au bout d'une heure, je suis épuisé. Tellement il y a des questions, ils n'arrêtent pas. Et même quand je suis en train de partir sur le pas de la porte, monsieur, alors et comment se forme le soleil, etc. Donc ici, par contre, voilà, il faut plus les titiller. Alors, vous avez des questions, allez, posez-les. Voilà. Parce que je crois que c'est culturel. Ils n'osent pas trop poser de questions. Ils sont plutôt dans la descente du savoir, mais ils ne contestent pas. Ils ne demandent pas. Voilà. J'ai pu voir aussi ce matin des premières qui étaient très curieux et qui m'ont posé beaucoup de questions.
Il y a peut-être une différence de perception et de croyance peut-être en Asie comparée à d'autres continents.
Alors, je ne l'ai pas ressenti, hein, parce qu'on n'a pas trop parlé de croyance. Justement, je pense que peut-être qu'ils ont certainement des croyances, des a priori, mais justement, je crois que ce n'est pas dans leur culture de s'épancher sur cela. Donc, je n'ai pas pu les sonder. Mais je pense évidemment que partout, ils ont des croyances ou des cultures. Par exemple, en métropole, là, sans, ils n'hésiteront pas à me dire que, ah ben non, mais moi je croyais que c'était Allah qui a créé les planètes, des trucs comme ça, ou alors la Terre, elle est plate. Je suis sûr qu'ils se posent les mêmes questions, parce que Internet propage ces infox voilà, encore plus vite que la vitesse de la lumière. Hein. Mais ceux-là, je pense qu'ils n'oseront pas me contester ou me dire. Et je trouve que c'est dommage, parce que finalement, ils gardent peut-être en leur fort intérieur quelques croyances ou a priori que je pourrais totalement... éliminer ou au moins tenter d'expliquer.
Ok, merci. Quels sont les types de questions qui reviennent auprès des enfants ?
Alors, les questions, alors moi, l'expérience que j'ai, c'est surtout en primaire. Hein, c'est là que les questions sont fuses. Les enfants sont encore départis d'a priori, enfin, pas de, ils sont sans retenue, disons, tandis que plus ils grandissent et puis ils sont. Dans l'acceptation des idées, tout ça. Et ce que j'aime bien dans le jeune, très jeune public, y compris les maternelles, parce que j'interviens en maternelle, je considère que l'astronomie, c'est pas difficile, il faut juste adapter le propos. Et en maternelle, on peut parler de beaucoup de choses, et ils savent beaucoup de choses. Justement, on vit dans un monde de savoir, on a plein de reportages, plein de choses. C'est pas tant de leur apporter le savoir, je dirais, c'est surtout de leur apporter le sens critique de ce qu'ils voient et écoutent. Alors, je me perds, c'était quoi la question ?
Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent auprès des
enfants ? Ah oui, alors les questions, ben, je dirais le top 10 des questions, le best-seller, c'est surtout centré sur les peurs. Oh, est-ce qu'un astéroïde va nous tomber sur la tête ? Ou un trou noir ? Alors, ça les effraie. Un trou noir, est-ce qu'il va nous aspirer ? Alors les trous noirs sont très 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 loin, loin de la Terre, c'est pas la Terre qui va être respirée par un trou noir. C'est des questions comme ça, issues de peurs profondes. Et puis après, effectivement, c'est tout ce qui colle à l'actualité. Est-ce que la vie existe ailleurs ? Est-ce que les aliens existent ? Et puis, je dirais, il y a aussi beaucoup de, comme je disais, de fausses nouvelles, de croyances, comme... qui sont propagées par Internet, justement, elles se propagent beaucoup plus que les vraies vérités, et comme des croyances comme la Terre qui est plate, qu'on n'est jamais allé sur la Lune, ça aussi, on me les pose. Mais je vous dis, c'est surtout les petits qui ne sont pas encore dans la retenue, qui sont naturels et qui posent des questions. Après, moi, une fois, quand j'étais en maternelle, il y a une petite fille blonde aux yeux bleus qui m'a demandé si le Soleil était marié avec la Lune. Alors là, je n'ai pas démenti, bien entendu. Voilà, ce genre de questions.
Très mignon, très mignon. Est-ce qu'il y a eu des questions auxquelles vous avez eu du mal à répondre ? Peut-être sommes-nous seuls dans cet univers ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Non, il n'y a pas. Les questions sur lesquelles j'ai du mal à répondre, c'est les questions sur lesquelles je suis ignorant. Et je n'ai pas peur de le dire, parce qu'effectivement, quand on ne sait pas, ben, vaut mieux le dire, et je ne peux pas être au courant de toutes les nouvelles. Par exemple, il y a des domaines de l'astrophysique qui me sont très lointains, comme tout ce qui est la cosmologie, tout ce qui est origine du Big Bang, tout ça, c'est pas mon domaine. Moi, je suis planétologue, donc je suis plus terre à terre, donc j'explique ce que je sais. Et quand je ne sais pas, moi, je dis oui, ben, c'est peut-être ça, mais il faut vérifier. Voilà. Je n'ai pas de difficultés, de questions qui me posent problème, à part ne serait-ce que les expliquer dans un langage simple. Quand on me demande, quand c'est des petits qui me demandent comment la Terre s'est formée, c'est une réponse qui demande de longues minutes à expliquer, donc je fais un raccourci. Donc là, effectivement, j'ai du mal à répondre, parce que je ne veux pas non plus les emmener dans des détails un peu trop techniques qu'ils ne pourraient pas comprendre. Voilà.
Merci. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Alain Dorisundiram d'avoir accepté notre invitation. Je tiens aussi à remercier Seth Lavi M et Amélie Gauche pour la réalisation de ce podcast. Vous pouvez Retrouvez cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.
Au revoir, merci beaucoup.
Merci.